Bien, eh bien écoutez, le timer m'accompagne, mais Lionel, il faut le lancer, merci. Alors, donc une proposition, cette proposition, c'est celle de l'investissement social dans le moment clé que constitue la périnatalité. Alors, qu'appelle-t-on la périnatalité? Eh bien, c'est cette période de la vie des personnes et des familles. Bonjour, Claude Finkenstein, qui comporte un ensemble de situations risques psychiques dans lequel on sait que des interventions thérapeutiques précoces, efficaces et préventives pour la mère et pour le bébé sont possibles. On a une petite pensée émue, bien sûr, pour Madame Hillary Clinton, dont on sait qu'elle n'était pas la seule à utiliser son ordinateur personnel pour traiter d'affaires d'État et qui avait écrit il y a une vingtaine d'années, à la suite d'un voyage en France, cet ouvrage. Ça prend un village d'élever un enfant. Donc, j'y reviendrai de façon plus détaillée. La question qui se pose, c'est celle d'une politique de santé mentale périnatale qui reste à mettre en place, articulant à la fois des parcours et des accès à des choses qui pour l'instant restent des ressources rares, les dispositifs spécialisés, l'accès aux psychothérapies. Et puis la présence effective dans les services de maternité, là où les choses se passent dans le contexte actuel. Je dois beaucoup au docteur Grégoire, Alain Grégoire, malheureusement souhaitait être parmi nous et il ne le sera pas. Il est l'animateur au Royaume-Uni de cette alliance pour la santé mentale maternelle périnatale dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Et nous étions ensemble il y a quelques jours autour d'un repas agréable. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, contrairement, on en Mais je le garderai. Alors, pourquoi? On en parlait hier soir avec Pierre Thomas. Parce que, et alors ce genre de dia, ça fait hurler dans les congrès de gynécologie obstétrique, j'y reviendrai, mais c'est quand même une réalité, excusez-moi, je n'ai pas la référence sous la main. La principale cause de mortalité maternelle, ce n'est pas l'infection, ce n'est pas la grossesse elle-même, ce n'est pas l'hémorragie, ce n'est pas l'embolie, ce n'est pas les problèmes cardiaques, ce sont les troubles psychiatriques entendus de façon large, avec bien sûr les questions de suicide, mais aussi d'alcoolisation, de drogue, etc., etc. La période de la grossesse, même si ces données sont anciennes, est la période où le risque d'épisode psychotique est le plus élevé et de loin dans la vie d'une femme. Donc risque d'épisode psychotique, et qui dit épisode psychotique dit hospitalisation. La psychose puérale est rapide, elle est grave et elle est fréquente. Fréquente à l'échelle, bien sûr, d'une population. On sait aussi que le plus haut risque de rechute du trouble bipolaire est à cette période-là, c'est-à-dire qu'on a une forte liaison entre la psychiatrie périnatale et la psychiatrie des troubles bipolaires. Je n'y insiste pas, mais ces données restent tout à fait d'actualité. Et ce risque de trouble de rechute bipolaire, des troubles bipolaires est important parce que beaucoup de femmes mal conseillées, mal orientées, ne bénéficient pas des réflexions en matière de pharmacovigilance auxquelles elles devraient avoir droit actuellement. Nous essayons, avec Raoul Belzeau, d'y remédier au moins en région PACA. Et puis, la dépression du côté de la mère, c'est la complication médicale la plus fréquente de la maternité, c'est-à-dire que la morbidité principale, j'y reviens un peu, au-delà de la mortalité, c'est bien celle de la dépression. Incroyablement plus fréquentes que l'hypertension, l'hémorragie de la délivrance, qui pourtant font couler d'encre et de slides dans les congrès. Alors, on pourrait se dire, ben, les mères sont déprimées, elles guérissent, c'est pas si grave que ça, un épisode dépressif dans une vie, pourquoi pas? Sauf que, quand même, on sait l'impact des tableaux anxio-dépressifs, je simplifie un peu, sur le développement de l'enfant. C'est-à-dire, on sait à quel point l'expression du phénotype, j'ose peu parler de ces choses-là dont je ne suis pas spécialiste, est liée à la dépression maternelle. Et ça, on le voit sur des enfants entre 4 et 13 ans. C'est-à-dire qu'on sait que la psychopathologie maternelle, qu'un état dépressif, entraîne des troubles psychiques chez l'enfant. Alors, si on veut fouiller un peu plus les choses, on a cette étude dont j'ai toujours trouvé les chiffres un peu abusifs, qui montre que chez les adolescents, les mères avaient présenté des dépressions dans une proportion importante, 100% c'est un chiffre un peu stalinien, mais bon, dont 60% pendant la grossesse. C'est-à-dire que la dépression pendant la grossesse chez la mère fabrique, passez-moi l'expression, une dépression chez l'adolescent, et on sait bien à quel point les adolescents posent des problèmes un peu plus tard, c'est-à-dire 15 ans après la dépression de la mère. Alors, à ça, on pourrait dire, il n'y a rien à faire, les choses sont trop difficiles, il n'y a rien à changer, rien à transformer. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose à faire, et on a en particulier un certain nombre de techniques qui diminuent l'absence de responsivité, passez-moi le terme et le néologisme, de la mère. C'est-à-dire qu'on dispose de techniques relativement simples, en particulier la guidance vidéoscopique, pour proposer aux mères présentant soit des tableaux dépressifs, soit des tableaux psychotiques, soit des tableaux schizophréniques. Je ne rentre pas dans les détails, des techniques qui leur permettent de plus se sentir mère et d'être des mères plus à l'aise avec leur bébé. Donc on peut diminuer l'insensibilité maternelle, augmenter la sensibilité maternelle jusqu'à les rapprocher relativement de la moyenne dans la communauté, comme on dit. De même, c'est pas seulement sur la mère qu'on peut agir, mais aussi sur le bébé. On dispose de façons de procéder avec les bébés qui diminuent la passivité de l'enfant, c'est-à-dire qui en font un acteur de son développement, même dans le contexte difficile d'avoir une mère déprimée ou une mère psychotique ou une mère schizophrène. Alors, de ces données, qu'ont tiré nos collègues britanniques, en sachant que ce que je présente là, de façon évidemment extrêmement succincte, c'est un exemple, alors pas au sens où il faudrait copier, pas au sens où il faudrait aller prendre des leçons, outre, ça va être d'ailleurs de plus en plus difficile avec le Brexit, pas au sens où il faudrait aller prendre des leçons de l'autre côté du Channel, mais quand même avec la possibilité de s'en inspirer, probablement de poser des questions sur la façon d'organiser, j'allais dire du sol au plafond, à la fois la santé mentale, qui relève beaucoup des pratiques des sages-femmes, des pratiques obstétricales, jusqu'au haut de la pyramide qui rassemble les femmes qui présentant des troubles pathologiques sévères antérieurs ou apparaissant avec la naissance ont nécessité une hospitalisation. Et c'est dans ce domaine-là que l'expérience britannique est très ancienne, puisque dès la fin des années 50, des unités d'hospitalisation conjointe à temps plein ont été créées au Royaume-Uni, avec un développement jusqu'au milieu des années 80 qui ont conduit à plus de 300 lits d'hospitalisation mère-bébé. Alors quand on dit lit d'hospitalisation mère-bébé, bien sûr, on parle du lit pour la mère et du berceau pour le bébé. Donc ces unités ont ensuite connu un creux. Ce creux, c'est celui des années Thatcher, avec une division par deux de ces lits. Il faut dire que la répartition de ces lits était très aléatoire, et surtout que les unités étaient de toute petite taille, ce qui n'était probablement pas le meilleur système. Actuellement, et je vais essayer de vous le montrer rapidement, même si je n'ai pas l'actualité de ce développement, un travail pour installer non seulement le haut de la pyramide, c'est-à-dire les unités d'hospitalisation à temps plein conjointes, mais aussi tous les niveaux que vous voyez représentés rapidement ici, est en cours. Nous allons y venir. Alors, nos collègues britanniques ont plus l'habitude que nous, bien sûr, je ne parle quand je dis nous que des médecins, les directeurs sont familiers évidemment de ce type d'approche, mais la London School of Economics, MEC ou Rome, si on peut dire, ou Lourdes, de l'économie libérale, a calculé les coûts de la santé mentale périnatale et des échecs à prendre en charge ces troubles. Et nous allons le voir, non seulement ça fait la première page du Guardian en 2015, si je ne me trompe pas, mais on en a tiré un certain nombre de choses. Où en sommes-nous si nous nous comparons, et là je parle à des gens qui travaillent dans le domaine du soin psychique, avec les soins physiques? Eh bien, un calcul très rapide qui a été mené dans cette étude d'Annette Bauer à la London School of Economics montre qu'on investit à peu près 2800 livres, je n'ai pas les chiffres français, dans les soins physiques de la période de la grossesse, de la maternité et de l'immédiat postpartum. Le calcul qui a été fait, c'est que la généralisation d'un parcours de soins, dirions-nous peut-être actuellement, d'une offre de soins de santé périnatale, coûterait quelques dizaines d'euros, comme vous le voyez ici. Bref, on est à 2,6 milliards pour la maternité, la grossesse, que vous me permettrez d'appeler physique, et un parcours complet de santé mentale périnatale coûterait 300 et quelques millions. Donc, les économies ont été calculées, et sans politique de santé mentale périnatale, eh bien, on se prive d'une économie de 8 milliards de livres, billions, dit-on en anglais. Donc, si on veut traduire ça de façon un petit peu... excusez-moi, il y a une flèche qui s'est déplacée dans la diapo. De façon un petit peu brutale, vous voyez... Je n'ai pas de pointer, pardon. Tout à fait en bas, pour ceux qui ont des très bonnes lunettes et qui n'ont pas de problème d'opticien, 337 millions de livres permettent, investis de façon pérenne évidemment, d'économiser 8 billions, milliards de livres. Et donc, ceci a, je salue la présence dans la salle de Claude Finkelstein, ceci a nécessité et a reposé finalement sur cette alliance qui, comme vous le voyez, rassemble, une très grande diversité d'acteurs. Bien sûr, quelques sociétés scientifiques, dont la Marseille Society, qui a une déclinaison française, la société Marseille francophone, aussi, bien sûr les Royal College des psychiatres, des sages-femmes, des médecins généralistes, des obstétriciens, mais aussi les différentes associations de parents, de patients, soit du côté de la bipolarité, soit du côté des parents. Avec des choses un peu spécialisées, en particulier du côté de la psychose, de la vieille psychose du postpartum. Et nous arrivons à ce qui est quand même l'objectif de tout un chacun là, c'est d'obtenir l'écoute des politiques. Et cet homme qui a conduit le Royaume-Uni au Brexit, lequel ne s'en est pas remis, je parle du Royaume-Uni, pas de M. Cameron, j'espère qu'il va bien, a décidé qu'il fallait consacrer vraiment, vraiment une partie importante de la rénovation en profondeur de la psychiatrie britannique. Un tiers du milliard de livres disponibles pour la rénovation de la psychiatrie britannique a été, de façon radicale, au meilleur sens du terme radical, c'est-à-dire à la racine, consacré à l'amélioration de l'accès aux soins psychiques des femmes suffisamment en difficulté pour nécessiter des soins spécialisés. Je laisse là de côté la dimension de soins de santé primaire qu'on peut faire assumer à nos collègues obstétriciens et sages-femmes. Bref, en décidant en janvier 2016 de cette mesure radicale, en se pliant aussi dans une certaine mesure à ce qui s'était passé à la Chambre des communes, David Cameron a pris une place dans l'histoire de la psychiatrie périnatale. Les conditions qui ont été remplies successivement au Royaume-Uni sont les suivantes. On avait, et je le montrerai dans un instant, une bonne évaluation épidémiologique des choses. On disposait, avec les guides de bonne pratique du NICE, basés sur des choses suffisamment scientifiques, d'éléments de preuve assez réussis. On savait comment produire des soins adaptés au degré de difficulté que rencontraient les femmes et les bébés. Le système qualité qui va avec ça se trouvait en place. Et on avait, je viens de le dire, avec la London School économique, évalué avec tout le caractère un peu grossier des choses, les gains possibles. Ce qu'il a fallu dégager, c'est ce soutien actif de tous les intervenants. Et je vous ai montré la dia précédemment. C'est ce travail-là qui a été mené par Alain Grégoire. Alors, la campagne Everyone's Business a rassemblé, je vous l'ai dit, non seulement des professionnels engagés dans la périnatalité somatique, mais aussi des usagers, usagères, avec des histoires un peu difficiles, puisque, comme vous le savez, quand une mère se suicide, ce qui peut arriver, il sera question tout à l'heure du suicide, eh bien elle laisse un père et un orphelin, et les témoignages des pères, des personnes s'étant suicidées dans le cadre d'une psychose du postpartum ont beaucoup soutenu, sur un mode un peu terrible, cette campagne. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé le bouton. Un calcul rapide, je ne m'attarde pas là-dessus, à montrer que les unités mère-bébé britanniques, qui avaient déjà repris du poil de la bête au début du XXIe siècle, manquaient encore d'un certain nombre de places. Une étude épidémiologique, enfin une étude de moyens a été menée. Et on a constaté, avec une critérisation assez précise, que de nombreuses zones n'étaient pas équipées de ce dispositif dont je vous ai montré la traduction en pyramide, avec des équipes périnatales de proximité, des équipes associant des psychiatres en périnatalité, excusez-moi, j'ai pas assez dormi, et puis les dispositifs complètement du haut de la chose. Ce qui est en rouge, là, ce sont les régions ou les zones qui n'étaient pas du tout équipées en 2013. Je n'ai pas la carte actuelle, mais les choses ont très bien évolué. Du coup, l'Alliance pour la santé mentale maternelle dont je vous ai parlé se développe en direction d'une alliance globale pour la santé mentale maternelle. J'ai dit les liens étroits entre les troubles bipolaires et les épisodes puerpéraux. J'indique que des mesures peuvent être prises qui sont difficiles sur des raisons que connaissent bien les cliniciens sur lesquelles je ne m'arrêterai pas. Quand on devient mère, on a envie d'oublier qu'on a été un usager ou une usagère de la psychiatrie. Et surtout dans un pays où, avec la question de stigmatisation comme en France, l'image de la psychiatrie reste brouillée, reste inquiétante pour une large partie de la population. Et puis on est obligé de rappeler qu'avec la loi de 2002, ce sont les patients qui décident et non pas les médecins. Donc nous disposons, avec les guides NICE, d'outils qui évidemment ne sont pas traduits en français. Et on peut bien sûr penser que la génétique des patientes britanniques n'est pas tout à fait la même que celle des patientes françaises. Mais néanmoins, cette épidémie, à mon avis, reste excellente. Et donc, on arrive à quelques chiffres dont je soutiens qu'ils sont valables pour le Royaume-Uni, mais aussi, bien sûr, pour la France. 2 pour 1000 naissances suivies d'une psychose du postpartum, 2 pour 1000 naissances nécessitant une hospitalisation sur l'aggravation d'un trouble psychiatrique chronique, 3% des naissances sévères suivies d'une dépression maternelle sévère, je ne parle pas de la dépression maternelle en général, 3% des naissances suivies d'un syndrome de stress post-traumatique, très fréquemment sur une césarienne code rouge, donc une césarienne en urgence, et puis bien sûr les chiffres classiques, un peu effrayants, 10% des naissances suivies d'une dépression, d'un état anxieux. Je laisse de côté les difficultés d'adaptation volontairement qui ne constituent pas des pathologies. Voilà les chiffres, du coup, en France, sur la base d'une natalité un petit peu déclinante, on n'est plus en dessus des 800 000 naissances. Quelques milliers d'hospitalisations dans lesquelles, le plus souvent, la mère est séparée de son bébé avec tous les dégâts, passez-moi le terme, qu'il y a après. Des dizaines de milliers de situations dans lesquelles le bébé est élevé et le pédopsychiatre que je suis se prive en ne vous montrant pas les effets de cette dépression chez la mère sur des modèles un peu parlants et expérimentaux, sur des settings expérimentaux, et puis donc à peu près 80 000 naissances, suivies d'une dépression modérée ou d'un état anxieux, généralement pris en charge de façon très aléatoire. Il existe pourtant en France un certain nombre de dispositifs de soins conjoints. Ce qu'on appelle les dispositifs de soins conjoints, ce sont les dispositifs de soins mère-bébé et parent-bébé, qui vont d'unités de soins ambulatoires à des unités d'hospitalisation temps plein. Et si on faisait un sondage dans la salle, ce serait assez intéressant de savoir dans quels établissements ont pris pied ces différents dispositifs. C'est un dispositif de soins psychiques, il concerne le bébé, les parents, mais aussi la relation parent-bébé, et les outils, d'où l'importance des outils de vidéo guidance interactive. Il s'agit donc de savoir comment organiser des liens entre professionnels. Cette question est apparue de façon importante dans le rapport de l'HCAM dont on a parlé hier. Les communautés de proximité et les territoires de santé ont beaucoup à nous apprendre dans ce domaine-là. On repose sur des connaissances à peu près établies sur les effets nécessaires pour le développement du bébé, de la relation mère-bébé. Toute difficulté relationnelle mère-bébé, sans aller jusqu'à la maltraitance, affecte éventuellement durablement le développement de l'enfant. Voilà ce qu'on peut synthétiser de cette façon. Et là, accrochez-vous à vos fauteuils, voilà en gros l'ensemble des acteurs qui peuvent ou doivent être activés. Donc, à gauche, la santé mentale au sens le plus large, à droite, avec une pyramide renversée, les situations les plus lourdes. Voilà comment tout ça peut, je fais exprès évidemment de vous donner un peu le vertige, être activé suivant les types de situations dont on a besoin. Tout ceci nécessite donc évidemment, j'espère que je vais arriver à les épuiser, parce que mon capital temps ne cesse de fondre devant moi, nécessite des capacités d'articulation entre le public et le privé, entre le psy et le somatique, entre les libéraux. Excusez-moi, si quelqu'un veut bien retourner mon téléphone, je vous prie de m'excuser. Et donc, la coordination de ces choses-là nécessite l'adaptation, nécessiterait, sans doute faut-il quand même, je sais bien que Alain Grégoire me taperait sur les doigts, mais nécessiterait quand même d'avoir un petit peu d'être confronté au système français. Voilà ce qu'on pourrait imaginer. On pourrait imaginer que de même, je suppose que vous l'avez en tête, que les maternités à la fin des années 90 ont été structurées, organisées, avec des soins gradués entre des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3. On pourrait imaginer que les niveaux 3 soient les unités d'hospitalisation temps plein mère-bébé ou parent-bébé, que à chaque endroit où il le faut, en particulier dans les maternités de type 2B, on dispose de dispositifs d'équipe mobile ou d'hôpital de jour, et puis que dans les maternités de niveau 2A ou 1, l'accès à un psychiatre, et pas seulement à des psychologues, serait précieux. Alors voilà, il s'agirait d'organiser de façon un peu coordonnée et graduée l'ensemble des dispositifs dont je ne veux pas parler en détail, mais qui permettent une offre graduée de soins et qui évitent que les unités d'hospitalisation soient encombrées par des situations qui peuvent être gérées par des équipes mobiles ou par des unités de soins de jour, des unités ambulatoires, donc, mais d'hospitalisation de jour. Donc, un certain nombre de choses ont lieu actuellement en France grâce à la Société Marseille Francophone. Nous prenons en compte les recommandations britanniques, je vous l'ai dit. Nous disposons de chiffres sur la façon d'organiser les choses. Il existe en France depuis longtemps, et j'adresse un salut amical à Bernard Durand qui était parmi nous hier, que les unités d'hospitalisation fonctionnent. Les unités ambulatoires de soins conjoints, même le ministère, dans sa grande sagesse évidemment, il n'y a personne du ministère donc on peut le dire, même le ministère n'en a pas la liste puisque tout ceci est dispersé un peu partout en psychiatrie. Il exerce une cohorte 2000-2010 qui a regardé les indications qui ont été posées dans les unités d'hospitalisation à temps plein. Je passe. Si l'état des lieux en France est complètement incroyable, les unités à temps plein en province comme à Paris se sont créées tout à fait progressivement, de façon totalement aléatoire, sans tenir compte des besoins de la population, et pour aller plus vite, parce que je vous épargne ce lent développement des unités de jour ou des unités temps plein, eh bien il faut dire que dans des villes aussi importantes que Toulouse, par exemple, c'est la même chose pour l'Île-de-France que pour la France entière, on n'a malheureusement pas d'unité d'hospitalisation ni en Occitanie, ni en Bretagne, ni à Saint-Étienne, ni à Grenoble. C'est normal, il n'y a même pas de professeur de pédopsychiatrie dans ces villes, donc pourquoi y aurait-il de la psychiatrie périnatale? On se le demande. Donc au total, nous sommes à une petite centaine de lits d'hospitalisation conjointe temps plein, à un peu moins de de places, d'unités d'hospitalisation de jour, et les besoins sont importants. Nous avons un cadre réglementaire très bien fait pour un certain nombre de choses. Un groupe, je m'avance pour conclure, de travail a été organisé en périphérie du comité national de pilotage de la psychiatrie, et 8 actions prioritaires, mais qui devraient être organisées dans un plan d'action, ont été repérées par un collectif associant bien sûr non seulement des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychiatres de psychiatrie périnatale, mais aussi le président du Collège national des gynécologues obstétriciens, le professeur Israël Nizan, qui est maintenant un chaud partisan de ces choses-là. Et on est arrivé à l'idée que reprendre l'entretien prénatal précoce, l'offrir systématiquement, ce qui n'a pas été fait par le plan périnatalité il y a maintenant une dizaine d'années, serait une excellente chose s'ils étaient articulés, si les informations remontaient à l'issue de l'entretien prénatal précoce en direction de la maternité où va accoucher la femme. La généralisation des staffs médico-psychosociaux auxquels Evelyne Philippe et Geneviève Edrine en région PACA ont consacré beaucoup d'énergie est assez bien avancée au niveau national. Ces staffs permettent d'articuler dans une vision un peu holistique les différentes dimensions des difficultés qui fragilisent les parents. Et puis, et je vais me donner 3 minutes là-dessus, l'idée c'est que nous avons manqué le coche dans les années 2000. Au début des années 2000, un rapport remis à M. Kouchner, alors ministre de la Santé, indiquait la nécessité pour la santé mentale et la psychiatrie périnatale d'avoir à la fois des psychologues clairement articulés avec le service public de psychiatrie et des psychiatres. Et la vague suivante, excusez-moi de parler de vague, c'est-à-dire le plan périnatalité, s'est centré non pas sur l'organisation et l'articulation des psychologues et des psychiatres de psychiatrie périnatale, mais plutôt sur les sages-femmes de l'entretien prénatal précoce et les psychologues. Les postes de psychologues ont été siphonnés par les équipes d'obstétrique et ne jouent pas, dans la majorité des cas, leur rôle d'interface entre la maternité et le monde du soin psychique. Et les postes de sages-femmes pour l'entretien prénatal précoce ont été siphonnés par les salles d'accouchement. Ça, c'est les collègues obstétriciens à la fois qui le disent et qui l'ont fait. Du coup, disposer dans chaque région d'un dispositif d'expertise, de consultation de ressources, de psychiatrie périnatale, m'apparaît personnellement comme une des grandes priorités. Développer des dispositifs de formation et actualiser pour l'ensemble des psychiatres, mais aussi pour l'ensemble des obstétriciens, les connaissances issues en particulier de la pharmacovigilance dont nous avons besoin parce qu'elle évolue à toute vitesse, serait une excellente idée. L'HAS a été sollicité pour voir dans quelle mesure on peut traduire, à tous les sens du terme, traduire les recommandations de la NICE que je vous ai montrées rapidement. Les parcours, les programmes régionaux de santé qui sont la Bible, nous a dit M. Darcourt hier, le directeur de l'agence, l'ex-directeur de l'agence régionale PACA, est important et tout ça mériterait de faire l'objet d'un plan d'action un peu global. Premier petit pas, l'HAS a récemment, début octobre, considéré que le diagnostic et la prise en charge des troubles psychiques périnatales, alors périnatales ou périnataux, on a le droit d'hésiter entre les deux, c'est la pédopsychiatrie étant le troisième thème de travail pour 2018-2023 de la HAS, le fait que les troubles psychiques périnataux soient mentionnés là-dedans est important. Bref, vous m'avez vu venir avec mes gros sabots. Je plaide pour qu'il existe, comme il en existe une au Royaume-Uni, comme il commence à en exister ailleurs, d'une alliance francophone de la santé mentale périnatale. Le Collège national de la gynéco-obstétrique, qui n'est pas le syndicat des gynéco-obstétriciens, qui a fait parler de lui récemment, dont le collège qui regroupe à la fois le métier de sage-femme et le métier de l'obstétrique, s'ils sont lancés, la Marse est francophone, la WAIM, Maman Blues, qui est une belle association d'usagers qui sont passés par ce qu'elles appellent des difficultés maternelles, peut-être la DESM, on verra ce que nous en dira son président, peut-être la FNAPSI, puisque quelqu'un est là, Je dis oui tout de suite. Merci Claude. Je ne doutais pas de ton soutien, mais comme on n'en avait pas encore parlé, enfin, du moins récemment. Voilà, et donc tout ça se termine avec l'idée que des assises de la santé mentale et de la psychiatrie périnatale auront lieu mi-juin prochain à l'initiative du professeur François Poinceau, dont je suis le PH, pour faire de cette offre de soins psychiques conjoints gradués et coordonnés une priorité, une vraie priorité dans le domaine de la santé mentale. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Bon, les budgets sont serrés, donc le courant électrique sera transformé en petite corne de brume. Ceci dit, la présentation était voyante, il n'y avait donc pas de brouillard, ça ne sera pas utile cette fois-ci. Et merci pour cette excellente présentation. Marsay, d'ailleurs, qui est probablement le psychiatre le plus connu dans le monde grâce à la société Marsay, hein. Ça fait partie des images comme ça très valorisées pour la France, où nous avons porté par la société Marsay, que vous avez présidé, une vraie représentation de la santé mentale de l'enfant et de la mère, et de la relation mère-enfant.